Awesome Boy Vrani, c'est le nom que s'est donné l'artiste qui le porte. Il se présente comme militant hors sol comme les plantes cultivées en Martinique pour ne pas être contaminées par le chlordécone, hors sol comme les plantes du jardin d'agronomie tropicale du bois de Vincennes au début du XXe siècle. Artiste vidéaste, performeur, instagrammeur, militant au sein d'Afro-exploitation, Décoloniser les arts, Génération Afrotopia ou encore Extinction Rébellion France, il a lancé la chaîne Histoire Crépue en 2020 pour s'emparer des histoires coloniales françaises à travers des sources accessibles à tous, disponibles directement sur Internet. J'ai lu que tu te définissais comme apprenti chaman numérique et militant hors sol. Ouais. Tu le dis, enfin ouais. C'est dans cet entretien là qui est vraiment bien avec documentation.art là où tu dis que t'évites l'appellation art contemporain et justement j'avais envie de t'expliquer un petit peu plus ces deux appellations.
Ouais, ces deux définitions. Ok. Bah du coup moi depuis que je suis sorti des Beaux-Arts en 2016. Je me suis présenté comme apprenti chaman numérique dès que j'étais dans l'espace, on va dire, de l'art contemporain, justement. Dès que j'avais une expo, une résidence ou autre, je me présentais comme apprenti chaman numérique. Et l'idée, c'était de dire, je suis pas chaman numérique, je suis apprenti. Et du coup, je suis dans une démarche de recherche pour réfléchir au lien qu'il y a entre spiritualité et espace numérique, en tout cas. Mmh. Et le chaman, c'est une personne qui traverse les mondes et qui connecte, on va dire, le monde des humains et le monde, un autre monde, qu'on imagine des dieux ou qu'on imagine d'autres entités. Et du coup, c'est pour ça que moi, c'était l'idée de connecter le monde des humains et le monde numérique qui est omniprésent, mais qu'on ne perçoit pas en tant qu'humain. On a besoin de la médiation de smartphones, d'ordinateurs, etc. Et du coup, en tant qu'apprenti chaman numérique, c'était cette réflexion de comment est-ce qu'on peut se connecter ou comment est-ce qu'on peut avoir une approche spirituelle de cet autre espace qui est avec nous, mais qu'on perçoit pas physiquement. Et il y avait aussi l'idée que le chaman, c'est un mot qui est un peu fourre-tout, qui arrive avec tout ce qui est anthropologie et ethnologie à l'époque plutôt coloniale et ensuite post-coloniale et tout. Et du coup, c'est un mot qui a servi à ranger plein de cultes assez différents dans la case chamanisme, qui sont pas des choses structurées à très grande échelle comme des religions, on va dire comme les religions monothéistes ou polythéistes. Et du coup, il y a beaucoup aujourd'hui de néo-chamanisme. L'appellation chaman, c'est quelque chose qui est très mouvant, en fait. C'est pas fixe. On peut pas identifier clairement ça, c'est le chamanisme. Et à l'origine du mot, c'est quelque chose d'assez fluctuant, quoi. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi. À la fois le côté mouvant et le fait qu'aujourd'hui, plein de gens se rapproprient cette notion de chamanisme.
Oui, on peut aller voir des chamans en cure ou des choses comme ça.
C'est ça, voilà.
Et le fait de connecter le monde numérique au monde humain, ça voudrait dire que pour toi, le monde numérique, il est quelque part trop obscur pour être... Enfin, parce qu'il est forcément créé par l'humain, donc c'est drôle de devoir le reconnecter.
Ouais, en fait, ce que je suis parti d'une réflexion... Je crois que c'était en écoutant une conférence de Yuval Noah Harari, qui est celui qui a écrit Homo Deus et le livre Sapiens aussi. Mm-hmm. Et il faisait des conférences sur TEDx, qui n'est pas forcément le meilleur format du monde, mais j'aime bien citer en référence les contenus que je consomme sur Internet. Et du coup, j'écoutais des conférences de lui et de plein de gens qui sont transhumanistes, qui ont un discours du coup assez étrange, mais qui porte enfin, qui ont un peu ce discours, du coup, le transhumanisme, c'est l'idée de dire que on va augmenter l'humain grâce à la technologie, mais aussi qu'il y a un moment peut-être de singularité. J'écoutais pas mal aussi les conférences de Ray Kurzweil, qui est un grand transhumaniste, et qui parle de la manière dont le cerveau humain va être connecté au cloud et dont la singularité va arriver, du coup, la singularité qui serait un moment où en fait, il se passe quelque chose d'imprévisible, qui va complètement changer radicalement la manière dont nos sociétés sont conçues, dont l'humanité se comporte, etc. Et du coup, moi, je me disais, c'est vrai qu'il y a un phénomène qui est très concret, c'est que par exemple, quand on s'oriente dans une ville, on va plutôt faire confiance parfois à Google et à l'itinéraire qu'il nous dit de prendre, plutôt qu'à ce qu'on sait de la ville ou à ce que on a l'impression qu'il faut faire. Et du coup, c'est ce genre de confiance aveugle qui est déjà d'ordre spirituel pour moi. Et aussi, par exemple, sur la santé, on a de plus en plus ces applications de santé qui se développent et qui vont nous connaître mieux qu'un médecin traitant qu'on pourrait aller voir et on lui raconte un peu ce qu'on a, mais il interprète à partir de ça, il nous donne un diagnostic, alors que l'appli de santé, bah, elle est avec nous tous les jours, elle mesure notre rythme cardiaque, nos cycles de sommeil, etc. Et quand elle nous dira c'est sûrement ce truc-là que tu as, bah, on lui fera une confiance de plus en plus aveugle, en fait. Et dans cette confiance aveugle, je vois un lien à la spiritualité. Et du coup, je me dis, mais comment faire un contrepoint au transhumanisme? Enfin, je sais pas, c'est un peu utopique, hein, mais en gros, ne pas rentrer dans le discours transhumaniste, mais en même temps reconnaître qu'on est en train de déployer des relations de spiritualité avec l'espace numérique sans s'en rendre compte. Et du coup, est-ce qu'on peut y réfléchir dès maintenant? C'est ce que je me pose comme question, en fait. Comment approcher cette question du rapport spirituel qu'on entretient avec l'espace numérique? Et avoir un minimum de prise dessus.
Ouais, c'est vrai que l'exemple du GPS, il est très juste parce que parfois on fait confiance au GPS alors qu'on voit que la route, elle va par exemple à droite et le GPS nous dit d'aller tout droit. Et en fait, non, ça, des fois ça se plante, mais on a d'abord fait confiance à ce truc-là malgré tout. Enfin, c'est presque absurde en fait.
C'est ça. Et puis même pour les bouchons, enfin le truc, c'est-à-dire parfois il va te dire un itinéraire totalement autre quand t'es en voiture. Que ce que tu devrais faire, mais parce qu'il sait qu'il y a des bouchons à tel et tel endroit, et effectivement, enfin, au bout d'un moment, tu renonces, entre guillemets, à ton libre arbitre. Enfin, il y a un truc qui se passe à ce niveau-là, qui pour moi touche à ce qui se passe aussi dans des problématiques de spiritualité. Let me breathe you in.
Hors-sol, pourquoi est-ce qu'il serait hors-sol, ce militant ?
Alors ouais, du coup, maintenant, je me présente plus comme apprenti chaman numérique.
D'accord.
Et je me présente, et je dis par contre, j'étais apprenti chaman numérique.
Donc maintenant, est-ce que tu serais chaman numérique ?
Non.
D'accord.
Et du coup, maintenant, je dis pas que j'ai réussi l'apprentissage, mais j'ai été apprenti en tout cas, et voilà. Mais en fait, moi, je fonctionne un peu par revendication. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas de dire je suis vraiment le truc, mais je me revendique tel. Et qu'est-ce que cette revendication apporte dans l'espace? C'est-à-dire que quand je dis apprenti chaman numérique, bah, ça soulève plein de questions. Je trouve que ça soulève plus de questions que dire je suis artiste.
Oui.
Et du coup, déjà, c'est une sorte de fiction spéculative, enfin un truc qui déjà active des imaginaires, des choses et pose déjà les questions qui sont dans mon travail en fait. Et même le choix de mon nom Sumboy, du coup apprenti chaman numérique, tout ce truc là, ça fait partie de mon travail, c'est comment les énoncés ou les choses qu'on revendique activent déjà l'ensemble du parcours et du travail. Et donc maintenant, je dis plus apprenti chaman numérique, je dis militant hors sol. Ce qui, en fait, est pas si éloigné en vrai. Mais quand je fais des biographies, je dis quand même « j'étais apprenti chaman numérique jusqu'à telle date, jusqu'à 2021 ». Et donc, le militant hors sol, c'est plutôt l'idée que... Il y a plein de trucs, mais c'est un peu un... Comment dire ? Il y a un peu un côté provocation. J'ai fait partie de mouvements comme Extinction Rebellion, par exemple, qui est un mouvement écolo... Enfin, d'action citoyenne écologiste. Et souvent, que ce soit chez les écolos ou chez les autres militants politiques, c'est très mal vu d'être hors sol parce que c'est souvent une insulte pour dire, cette personne-là est hors sol, elle se rend pas compte de ce qui se passe sur le terrain et elle est juste, à l'échelle nationale, mais elle est plus en contact avec les municipalités, les villages, etc. Ou bien alors, c'est les hors sol qui ont plus aucun contact avec la terre et qui sont dans l'urbain, dans le super-urbain ou des trucs comme ça. Et moi, en fait, je revendique cette situation des militants hors sol pour une autre raison qui est que, du coup, j'ai grandi dans une cité aux Luttes à Gennevilliers au 13e étage d'une tour et sans vraiment de connexion au sol, justement, et sans non plus de connexion au terroir français parce que dans cette espèce de zone qui est un peu, on va dire, un peu refermée sur elle-même, à cette époque-là, ma cité était très refermée sur elle-même. J'avais pas de visibilité sur ce qu'était la France. Je l'ai découvert beaucoup plus tard, ce qu'était le terroir ou ce qu'étaient même les les produits, la nourriture française concrètement. Enfin, moi, j'avais la cantine avec genre le bœuf bourguignon de la cantine et je me disais, waouh, c'est dégueu vraiment les produits français et tout. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout, mais j'avais pas accès à ce rapport au sol, en fait. Et en plus, j'avais pas non plus accès au sol de départ de mes parents, qui sont issus de l'immigration coloniale, du coup, enfin, de l'immigration après la colonisation. Et voilà, et du coup, c'était comme si je suis pas déraciné, parce que j'ai pas fait comme mes parents, partir d'un pays d'Afrique pour arriver en France. Moi, je suis déjà né là, mais sans m'enraciner ni dans ce sol, ni dans le leur. Et du coup, par contre, un espace dans lequel j'arrive à me déployer, c'est l'espace numérique, puisque j'ai grandi avec son évolution. Enfin, j'ai vu Facebook et tout arriver, mais en étant à un moment où je me construisais aussi en tant que personne. Et du coup, ben là, j'ai une sorte d'enracinement. Et c'est pour ça que j'essaie de parler de militants hors sol. C'est un peu dans l'idée des cultures hors sol, des tomates hors sol ou autres. Ben elles ont des racines, mais c'est juste que c'est pas dans le sol.
Et du coup, le fait de se renommer aussi, c'est une manière de revendiquer soi-même une forme d'identité, enfin qui serait pas ni celle donnée par les parents, ni celle par l'État.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment cette idée d'échapper, enfin en tout cas de jouer avec l'identification à l'occidental entre guillemets, parce que dans tout ce qui est en tout cas, dans un pays comme la France, c'est très important de correspondre à l'identité qui est inscrite sur nos documents officiels. Mais c'est quelque chose d'assez récent parce que avant, enfin, les gens avaient des noms assez fluctuants en réalité. Et dans les pays d'origine de mes parents, pareil, enfin, mes parents, ils ont au moins 4-5 noms en fonction des gens qui les côtoient ou en fonction des époques. Et cette conformité exacte au nom officiel de naissance, je la trouve assez étrange et j'essaye de jouer avec. Aussi, c'est beaucoup le personnage de Malcolm X qui m'a encouragé dans cette direction-là. Enfin, voilà, avec ce qu'il a fait et tout ce qui se passait à l'époque des Black Muslims qui changeaient leur nom à chaque fois, qui se convertissaient ou bien qui commençaient à prendre position politiquement. Mais plus généralement, moi, je suis d'une famille évangélique où c'est un même phénomène. Les évangéliques, souvent, quand ils se convertissent, ils changent de nom, comme pour faire rupture avec ce qu'ils étaient avant, quand ils étaient pêcheurs, entre guillemets, et que maintenant, voilà, ils ont ouvert les yeux, et il y a ce changement de nom qui arrive. Et moi, il y a un peu l'idée de... Bah, dans cette idée de spiritualité, apprenti chaman numérique, etc., de bah, quel serait le nouveau nom quand on s'engage politiquement dans l'espace numérique ? Est-ce que je peux revendiquer mon identité numérique, justement, et essayer de la faire se fondre avec mon identité légale ? If you keep building these walls, brick by brick, towers so tall, soon I won't see you at all. Till the concrete angel falls, I knew who you were from the start, but now I don't know who you are. Soon there'll be nothing at all, till the concrete angel falls.
Finalement, c'est vraiment le principe un peu de hosting, quoi. Quand dire c'est faire, tu te dis apprenti chaman numérique et donc tu l'es, tu te nommes et c'est donc ça. Tu changes.
C'est ça. Et je pense que ça va encore changer. Là, je suis militant hors sol, mais par exemple, cet été, j'ai fait un voyage en Afrique, justement, dans les pays de départ de mes parents pour me connecter justement à ce sol de départ. Et du coup, je pense que je vais pouvoir réenraciner des choses, donc peut-être que je serai transplanté d'une certaine manière, je sais pas. Mais j'aime bien ce lien avec l'écologie, enfin le fait de connecter militants et hors sol d'une manière qui est plutôt décriée en écologie. Mais par exemple, un dernier exemple, mais c'est que en Guadeloupe et en Martinique, avec les scandales du chlordécone, donc les terres qui ont été polluées par un pesticide, c'est ça, voilà, pour la culture des bananes. Et en fait, ils sont obligés de faire de l'agriculture hors sol. C'est un des meilleurs moyens, enfin c'est le seul moyen dans certaines zones d'avoir justement des produits de chez eux. Sinon, ils sont totalement dépendants de l'importation. Ce qui veut dire que dans leur propre terre, qui est en plus administré par la métropole française, bah, ils ont pas non plus, ils peuvent pas non plus s'approprier la terre et faire pousser leurs propres fruits, leurs propres légumes, se reconnecter à leur propre terre parce qu'elle est polluée. Et du coup, la culture hors sol devient la meilleure alternative dans certaines zones pour se réapproprier le sol, en fait.
Le fait d'éviter l'appellation artiste contemporain, est-ce que tu l'évites ou est-ce que parfois elle apparaît et c'est ok? Enfin, comment tu négocies avec ce terme-là?
Ben, j'essaie de l'éviter le plus possible dans l'espace de l'art, mais après, quand je suis hors des espaces artistiques ou qui se revendiquent comme tels, ben, ça arrive que je dise je suis artiste, et ça me permet en fait de faire un peu ce que je veux. Et ce qui est aussi une des forces de cette appellation, je trouve. Donc c'est une des forces performatives de cette appellation, c'est que bah, si j'arrive dans un cercle justement d'écologistes, comme Extinction Rebellion, chacun se présente, moi je suis agriculteur, moi je suis, ingénieur, il y avait beaucoup d'ingénieurs par exemple, ou il y a beaucoup d'ingénieurs chez Extinction Rebellion, et bah toi qu'est-ce que t'es? Si je dis militant hors sol, là ça fait un peu bugger tout de suite, mais en même temps c'est intéressant, ça ouvre une discussion, et du coup parfois je dis je suis artiste, et là on me laisse un peu tranquille et je peux aller dans n'importe quelle direction et revendiquer aussi différentes compétences. Alors que si je disais que je suis historien, peut-être que je serais bloqué dans « Ah, toi tu travailles sur l'histoire aussi, j'étais ingénieur, ah toi tu vas réfléchir à ce genre de truc. » Et donc ça, c'est vrai que hors des espaces artistiques, le mot « artiste » peut me servir parfois à naviguer de manière un peu floue. Et voilà, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
J'ai regardé la vidéo que tu avais créée pour postuler à SPIP, et ouais. Tu dis que tu mets en place des situations de système qui permettent de s'exprimer, de prendre part au débat. Et ça m'intéressait moi de toute façon, ça fait des années que je fais des recherches sur les artistes qui ne créent pas d'œuvres concrètes ou figées plutôt, mais et donc cette idée de situation et de système, j'avais envie que tu décrives un petit peu qu'est-ce que c'était en fait, qu'est-ce que tu mettais en place.
Ouais, bah par exemple, je peux dire deux petits trucs. C'est un protocole qui s'appelle développer la recherche que j'ai développé quand j'étais en résidence à la Villa Belleville à Paris. Et en fait, l'idée c'est juste de partir d'un mot du genre j'ai fait des tutos par exemple pour expliquer le protocole. Partir d'un mot genre camembert pour arriver à un site web, le site web de la marque, du magasin en ligne Asos. Et du coup, bah, comment est-ce que tu te déplaces dans l'espace numérique pour arriver à un site sans avoir tapé vraiment le nom du site, ce qui permet que l'algorithme ou Google ou peu importe si c'est Google ou un autre ne comprenne pas en fait réellement tes intentions.
D'accord.
Et du coup, ça c'est quelque chose par exemple de comment récupérer une capacité d'action face à Google. Bah, est-ce qu'on peut trouver des manières d'accéder à nos requêtes sans forcément faire tourner le moteur de recherche, genre taper le mot arrive, on clique dessus. On peut esquiver le côté motorisé de la recherche et le faire manuellement. Et en fait, dans cette recherche manuelle, du coup, qu'on va faire. Donc, par exemple, si je tape camembert pour arriver sur Asos, je vais devoir cliquer sur plein de liens, d'intraliens dans différents sites pour arriver jusqu'à Asos. Mais en fait, dans toute cette recherche, je vais apprendre d'autres choses, je vais tomber sur d'autres sites, je vais tomber sur d'autres histoires, enfin, je vais comprendre des choses même sur comment fonctionne Internet, genre, il faut pas aller sur Allociné, c'est un cul-de-sac, tu peux pas sortir d'Allociné une fois que tu y es, des choses comme ça, et en fait, tout ce genre de pratique, ça me permet de redévelopper, en fait, une sorte de sérendipité et de vraiment me rapprocher de ce qu'est la recherche, plutôt que de laisser le moteur le faire. Il y a cette idée-là, ou bien sinon, il y avait ce qu'on a développé avec Nani Soka, qui est l'invocation collective à Siri, par exemple, où là, Siri, pour le faire fonctionner sur les appareils Apple, il faut enregistrer sa voix. Il y a plusieurs étapes pour enregistrer sa voix. Une fois qu'il reconnaît la voix, on peut le déclencher personnellement. Et donc, il y a une identification qui est nécessaire avant de commencer à l'utiliser. Et là, l'idée, c'est que cette étape, ces quelques étapes d'enregistrement, on les fait collectivement. Du coup, avec un groupe assemblé de personnes qui participent à une performance, on leur propose de rejoindre du coup un rituel d'invocation collective de Siri. Et donc, on s'assemble. On peut être, je sais pas, une quinzaine ou bien une cinquantaine. On a déjà fait avec différents nombres de personnes. Et on leur propose de s'enregistrer. Et donc, il faut une vraie coordination pour dire « dis Siri » tous ensemble.
D'accord.
Et dire chacune des étapes de l'enregistrement. Ce qui permet ensuite d'être identifié, mais d'avoir masqué l'identité de la personne qui utilise. Et du coup, c'est une sorte de défense collective, entre guillemets.
Dans cette idée de situation, c'est aussi inclure le spectateur dans l'œuvre, parce qu'une situation, ouais, elle est nécessairement ouverte. Et du coup, je me demandais comment tu penses la réception de tes vidéos. Enfin, du coup, je dis vidéo, mais c'est réducteur par rapport, ouais, à tout ce que tu fais.
Par exemple, dans le protocole de dit Siri, par exemple, la performance qu'on fait avec Nani Soka, les gens sont de fait impliqués puisque ça peut se faire que collectivement avec tout le monde. Et du coup, c'est vraiment une invocation collective. Et après, une fois que c'est fait ça, les gens peuvent s'amuser à le refaire avec leur famille si elles veulent. Donc, c'est un truc assez simple. Sinon, il y a aussi C'est ça, ouais. Voilà. Et ça, c'est un format qui m'intéresse beaucoup. Et la question du tutoriel, exactement, comme je disais, pour développer la recherche, l'autre protocole qui consiste à esquiver Google, j'ai mis un tutoriel, j'ai fait un tutoriel qui est disponible en ligne. Mmh. Et du coup, il y a l'idée que les gens peuvent s'inspirer de ça pour faire leur propre petit protocole. Sachant que dans les cercles Wikipédia, par exemple, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent un peu comme ça. Il y a des jeux qui s'appellent Wiki Wars ou des choses comme ça qui consistent à atteindre des pages Wikipédia que par des hyperliens, en cliquant sur des hyperliens. Du coup, c'est pas un truc totalement innovant. Mais moi, je connaissais pas les WikiWars avant de faire développer la recherche. Mais voilà, il y a plein de protocoles de ce type qui existent.
Arrive à Histoire Crépue. Alors, est-ce que c'est la continuité de ton travail d'apprenti chaman numérique ou est-ce que l'adresse n'est pas la même? Et dans ce cas, comment tu penses cette adresse-là?
Alors, du coup, Histoire Crépue, c'est le moment où commence mon travail de militant hors sol. Donc, c'est un peu la fin de mon parcours d'apprenti chaman numérique et c'est le début de mon parcours de militant hors sol où vraiment je revendique cette appellation. Vraiment, l'adresse n'est pas la même que ce que je faisais avant, parce que l'idée dans Histoire Crépue, c'est de ne pas du tout me revendiquer comme artiste. Et donc, les gens qui suivent la chaîne Histoire Crépue ne savent pas du tout forcément que j'ai une activité d'artiste. La plupart pensent que je suis historien ou prof d'histoire, ce que je dément assez vite. Mais en fait, l'idée dans Histoire Crépue, c'était de me dire « je fais des vidéos qui ont vraiment vocation à toucher un public large ». Comme n'importe quelle personne le ferait en faisant des vidéos de vulgarisation d'histoire. Et justement, ne pas du tout le revendiquer comme artistique, parce que ce que je craignais fort, c'était d'être exposé, par exemple, que Histoire Crépue, avant d'avoir touché plus de 5000 personnes, soit exposé dans un réseau artistique, puisque je suis dans ce réseau, et qu'en fait, du coup, ça devienne un truc qui est, entre guillemets, validée ou connue de la communauté des gens qui tournent autour de l'art contemporain, mais qu'en fait, ça n'est pas besoin de prendre le risque de rencontrer le large public. Et c'est là où j'ai un problème avec la notion d'artiste parfois, c'est que je voulais me départir de cette notion pour vraiment prendre le risque de me lancer. Ok, j'ai pas de backup, je ne suis pas validé par l'art. Juste, je me lance sur les réseaux et j'essaie de vraiment toucher un public plus large. Et ça a pris et ça m'a apporté beaucoup de choses. Enfin, aussi parce que je parlais beaucoup d'espace numérique depuis le début, ça m'intéressait. Mais c'est quelque chose d'en parler quand on n'a pas de production à grande échelle. Et c'est autre chose d'en parler quand on produit vraiment du contenu avec une communauté active, avec un certain nombre de vues qui donnent aussi plein d'indications sur comment les gens se comportent en ligne, sur aussi quand on a beaucoup de retours en commentaires. Et du coup, là, ça m'a permis d'arriver à une autre étape, de sortir un peu de la théorie de l'extérieur et d'entrer dans la pratique aussi. Qu'est-ce que c'est que réellement produire du contenu en ligne et qui va vraiment être vu par des gens qui sont hors des cercles artistiques?
Il y a un autre truc aussi, j'y pense en t'écoutant, c'est, je suis pas allée à SPIP, mais il y avait cette idée que la fiction pouvait informer le réel. Et donc, tout à coup, là, le fait de pas venir t'inscrire dans un champ artistique, c'est aussi ne pas jouer sur ce... Ne pas faire croire que ça puisse être fictionnel d'une certaine manière. Enfin, j'ai l'impression que quand on va dans une expo, tout pourrait finalement... On peut douter de tout, mais là, en l'occurrence... Si on te considère plus comme un historien ou apprenti historien, tout à coup, ce que tu dis ne peut être que... La vérité, elle est toute relative, en tout cas que toi, t'y crois, en tout cas.
C'est ça. Oui, ça, c'était très important, parce que c'est ça que j'essaie de dire. J'arrive pas encore bien à le formuler, mais dans les espaces artistiques, il y a une relativité de tout, et j'ai l'impression. Et du coup, si le truc fonctionne bien, si la proposition qu'on fait fonctionne bien, elle peut être prise au premier degré. Mais si, par exemple, elle rencontre pas un large public, on peut toujours dire, ah oui, c'est quelque chose au second degré et que c'était une analyse sur le truc. Enfin, je sais pas comment dire, mais on peut toujours esquiver le fait de se confronter à la réalité, d'une certaine manière. J'ai l'impression, tout est relativisable d'une certaine manière, alors que moi, je voulais vraiment prendre le risque justement d'affronter quelle réception ça aurait, comment ce serait vraiment reçu par un large public. Et du coup, pour ça, il me fallait ne pas l'inscrire comme artistique, parce que sinon, les gens auraient peut-être dit « Ah, mais ça, c'est un truc d'artiste, donc... » En fait, ils n'ont plus de prise dessus, puisque c'est un truc d'artiste, donc... Et moi, je voulais éviter ce phénomène. Et pour dire aussi, effectivement, SPIP, du coup, le master SPIP, qui est à Sciences Po et qui veut dire Sciences Po, expérimentation, art et politique, qui a été monté par Bruno Latour, ça m'a beaucoup, parce que j'ai fait ça pendant un an, ça m'a beaucoup inspiré et encouragé à aller vers cette direction de fiction et de qu'est-ce que la fiction apporte à la réalité. Et qu'est-ce que la fiction apporte de politique? Et je suis aussi passé par l'école offshore qui a été montée par Paul de Vautour à Shanghai. Je suis aussi passé par le DIU Artec de Yves Citon à Paris 8. Et c'est plein de programmes très expérimentaux comme ça qui m'intéressent vraiment et qui m'ont beaucoup appris et permis de construire à la fois mon projet global qui est Sumboy en fait et Histoire Crépue qui en est une des occurrences. Et que, en fait, au final, par exemple, dans Histoire Crépue, j'incarne quand même le personnage du vulgarisateur, un peu inspiré de Jamy de C'est pas sorcier. Mais c'est quand même un personnage, donc il y a quand même un côté fiction. C'est juste que c'est à un autre degré, parce que forcément, quand on se met en scène, c'est de l'auto-fiction, en fait, voilà.
Et d'ailleurs, il y a des liens quand même formels très forts où l'usage du collage, la réappropriation d'images, le détournement, t'as des fonds qui reprennent les fonds d'écran aussi standardisés où tu peux créer toi-même. Du coup, on voit un lien quand même entre tes vidéos revendiquées en tant qu'artiste, quoi, et finalement Histoire Crépue. Enfin, il y a un usage des mêmes outils quand même, d'une certaine manière.
Ouais, exact. Histoire Crépue, je ne le revendique pas comme artistique, mais en fait, il est totalement inspiré et dérivé de ma pratique de militant hors sol dans l'espace revendiqué comme artistique. Et en fait, c'est important pour moi. C'est juste que je voulais ne pas le revendiquer comme tel, mais en fait c'est la même chose. Et par exemple le post-diplôme du coup offshore que j'ai fait à Shanghai, j'ai beaucoup travaillé avec Paul de Vautour et Stephen Wright sur les questions de comment l'art peut sortir des espaces d'exposition? Est-ce que la finalité d'une œuvre d'art, c'est d'être exposée? Et du coup, comment est-ce que nos pratiques artistiques peuvent être en fait infusées dans des actions du quotidien? Ça peut être souvent, pour les exemples que je voyais, c'était des boulangeries ou des gens qui faisaient, je sais pas, de l'agriculture, mais qui en fait avaient un parcours d'artiste. Et moi, là, ça va être quelqu'un qui fait de la vulgarisation, comme c'est aujourd'hui en fait une nouvelle activité qui est permise par les réseaux, qui est infusée de ma pratique artistique. Mais voilà, les deux sont connectés de cette manière.
Et par contre, quand tu fais Histoire Crépue, tu ne te revendiques pas comme militant hors sol ou les deux sont...
Et bien là, justement, j'essaye de fusionner ce truc-là. C'est aussi pour ça que j'avais besoin de sortir d'Apprenti Chaman Numérique, qui était plus vraiment activable avec Histoire Crépue, je trouvais, et d'aller vers la question du militant hors sol, qui était vraiment une question qui me travaillait, parce que pour toutes les raisons que j'ai expliquées un peu au début. Et donc avec Histoire Crépue, j'arrive à me présenter comme militant hors sol quand je suis dans l'espace médiatique. Mais ça arrive au fur et à mesure, je peaufine le discours aussi pour que ce soit le plus compréhensible possible et que ce soit pas le truc cryptique,
ouais,
qui fasse qu'on se dit « Ah, en fait, c'est un artiste, donc on va pas chercher à comprendre. » J'essaie que ce soit le truc le plus quand même accessible dans la manière dont je l'explique.
Mais c'est marrant parce que moi, j'ai été aussi un peu biberonnée à Stephen Wright parce qu'il était mon directeur de mémoire, parce que j'avais fait mes recherches sur les actions furtives.
Ah, trop drôle.
Et j'ai aussi beaucoup pratiqué ces questions de art à faible coefficient artistique.
Oui, c'est ça.
et justement, moi, je me suis intéressée non seulement à comment l'art peut sortir des espaces d'exposition, mais comment il peut aussi exister sans être identifié en tant que tel. Du coup, ça fait aussi écho, je me dis, enfin, après, même si c'est pas du tout les mêmes formats, mais finalement, par exemple, quand Guillaume Olivier-Ville se dit agent d'art, ou quand... Enfin, il y a finalement eu pas mal... comment il s'appelle, je sais plus, cet artiste qui parle de méta-art et qui est méta-artiste, Jean-Paul Thibault.
Oui.
Et je me dis, c'est marrant parce qu'il y a quand même eu aussi... C'est des gens qui ont également cherché à se redéfinir pour nommer des pratiques qui sont pas a priori conventionnelles ou celles attendues.
C'est ça. Et moi, j'ai été pas mal influencé par aussi ces personnes-là, puisque c'était des références qui m'étaient souvent citées. Mais moi, j'avoue que ce que j'essaye de faire, c'est, en fait, ce qui me paraît étrange avec les démarches de Paul de Vautour ou de Stephen Wright, c'est le fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'étais avec eux, c'était qu'ils avaient quand même la volonté de revendiquer comme art, c'est-à-dire de dire ok, on fait de la boulangerie informée par l'art, mais c'est très important de le dire, ce truc. Alors que moi, j'essaie plutôt d'être dans le truc inverse, c'est genre j'ai une pratique artistique, etc. Et de toute façon, c'est les cercles dans lesquels j'évolue, mais maintenant je fais de la vulgarisation. Et ça fait aussi bizarre, c'est parce que par exemple dans certaines résidences, j'ai dit instagrammeur, puisque j'ai atteint plus de 50 000 abonnés sur Instagram, je me suis dit, j'ai le droit de mettre le mot Instagrammeur. Je voulais être YouTuber, moi, là-bas. C'était pas mon but du tout d'être Instagrammeur. Mais pour l'instant, c'est pas encore chose réussite. J'espère que j'y arriverai à être YouTuber.
À combien de personnes qui suivent, on est YouTuber?
Je sais pas. Je pense qu'à partir de 10 000, ça commence, mais, ouais, mais j'y suis pas.
D'accord.
Donc, mais donc voilà, il y a ce truc là de ouais, je sais pas, je suis content de pouvoir revendiquer le nom Instagrammeur dans un espace d'art.
Mm-hmm.
Et que ça fasse bizarre aussi, et que plein de gens me disent ah mais Instagram ça a rien, enfin on voit que ça arrive de plus en plus, mais en fait pour l'instant c'était assez pas mal perçu, mais ça, il y avait une incompréhension un peu.
Oui, bien sûr, surtout je crois en France où il y a toujours eu cette dichotomie un peu genre high culture et low culture,
c'est ça.
Et quand elles se rencontrent, on fronce le nez un peu, quoi.
Voilà.
Il y a eu un colloque international sur l'activisme artistique qui disait ce truc un peu intéressant, qu'il se joue une dialectique entre deux entités traditionnellement perçues comme étant de nature différente. Donc le champ de l'art qui serait donc autonome, sans fonctionnalité, et le champ politique et du social, ouais, qui serait une praxis, qui serait justement l'exercice des pouvoirs dans la société. Et je trouvais ça assez terrible de devoir séparer les deux. Et je me demandais ce que tu pensais de ça, et notamment, est-ce que les contours sont pas plus flous? Et la preuve, c'est, j'ai l'impression, exactement ce que tu mets en œuvre, quoi.
En fait, oui, moi, je pense que, après, ça dépend ce qu'on peut entendre, mais par exemple, si Histoire Crépue est, d'une certaine manière, une proposition artistique, elle a eu un effet, un impact concret dans les questionnements politiques et dans les réactions politiques. En fait, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Nos statues coloniales. Enfin non, ça s'appelait pas Nos statues coloniales, excuse-moi. Elle s'appelle Nos monuments racistes. Et c'était une vidéo dans laquelle je présentais une statue du maréchal Gallieni qui est à Paris. Et en fait, donc cette vidéo, elle est informée de tout mon travail artistique et militant que j'ai mis en place depuis plus de 2 ans. Enfin, ça faisait 2 ans que je travaillais sur la figure de Gallieni dans d'autres cercles. Et j'avais écrit, par exemple, un article sur Décoloniser les arts, sur le blog de Décoloniser les arts autour de Gallieni. Enfin, j'avais fait plusieurs choses autour de cette figure, mais ça avait jamais intéressé le grand public. C'était toujours un tout petit cercle militant qui lisait ou qui regardait ce que je faisais. Et là, à ce moment-là, avec le contexte de l'assassinat de George Floyd et tout ce qui se passait, c'est rentré en résonance aussi parce que je montrais un monument et le patrimoine culturel. Enfin, du coup, il y a quand même la question de l'art et de la manière dont on conserve des œuvres culturelles. Et en fait, cette vidéo a joué beaucoup, en France en tout cas et en région parisienne, sur le fait de remettre en avant la problématique des statues dans l'espace public. Et aussi, il y a eu des prises de position forcées de différentes personnes de La République En Marche, de différents mouvements, des lives sur CNews, sur BFM TV, qui sont des chaînes qui font de l'actu en fait. Et du coup, tout ce travail artistique, moi, que j'ai fait par différents biais, a fini par rencontrer l'actualité politique et à servir, c'est pas le seul élément du truc, mais en tout cas, ça a été une paire avec d'autres dans un mouvement de revendication et du coup, dans un vrai débat politique français, quoi. Donc, je pense que là, pour le coup, il n'y a pas de séparation. Ça s'est fusionné ou d'une certaine manière.
Et donc, toi, tu ne sépares pas non plus Histoire Crépue de ton travail artistique?
En tout cas, je les revendique pas sur la même. Pour l'instant, je les revendique pas de la même manière.
D'accord.
Mais en réalité, ils sont totalement connectés. C'est la même chose. Mm-hmm. Mais pour te dire un truc que je dis jamais dans les interviews ou autres, donc c'est la petite exclue. Mais en fait, si tu veux, mon travail artistique, en réalité, de mon point de vue, je le considère comme c'est Sumboy en fait. C'est ce que je disais d'ailleurs dans une de mes premières vidéos de présentation que j'ai fait quand j'étais à Shanghai. En fait, c'est le chemin que trace le personnage de Sumboy dans différents espaces et du coup, dans l'espace de l'art contemporain, sachant que moi, je viens plutôt d'un milieu qui est pas du tout connecté à ça, d'une cité, de banlieue, et que cette histoire, ce point de départ, il est très important dans toute ma trajectoire. Et je le vois aussi bien parce que c'est important pour moi et pour les gens qui me suivent, par exemple sur Histoire Crépue, etc., qui trouvent intéressant le parcours, mais aussi pour les institutions qui parfois peuvent voir ça comme intéressant d'avoir quelqu'un qui vient d'une banlieue, dans toutes les logiques de discrimination positive, etc. C'est quelque chose, dans tous les cas, qui est très, très, très important. Et du coup, cette question du personnage, du nom même, Sumboy, et comment il va pouvoir circuler dans différents espaces, ça fait vraiment partie de ce que j'essaie de développer, en fait. Et du coup, de toutes les fictions spéculatives que je mets en place pour arriver à certaines choses et pour en même temps avoir une production concrète, qu'elle soit revendiquée comme artistique ou qu'elle soit de vulgarisation plus grand public, entre guillemets. Je ne sais pas si c'était très clair.
Si, mais du coup, il peut par exemple mourir et tu peux t'emparer ensuite de complètement autre chose, par exemple.
Oui, oui, c'est ça. En fait, je ne pense pas que Sumboy arrivera jusqu'à, je ne sais pas, 50 ans, j'en sais rien, mais... En tout cas, ça peut changer, effectivement. Et là, je travaille sur des choses pour mieux expliquer aussi tout ce que j'ai mis dans ce nom, en fait, et dans tout ce projet, en fait, global. Et après, je pense que ce sera plus Sumboy, du coup.
On voit aussi l'influence de Paul de Vautour là-dedans. Mais toi, t'étais déjà... Oui. Enfin, cela dit, t'avais déjà Sumboy avant d'aller à Offshore, non?
Oui, mais c'est à ce moment-là que je l'ai assumé, vraiment, d'accord. Et que j'en ai fait... ouais. Mais c'est vrai que j'avais déjà le personnage de Sumboy avant, mais je le revendiquais pas. Forcément, c'était un pseudo que j'utilisais sur Internet. Et c'est vrai que c'est quand j'ai été à l'école Offshore à Shanghai que j'ai vraiment fait le choix de que ce soit Sumboy.
Tu J'ai lu un mémoire absolument incroyable d'une étudiante de la IR qui s'appelle Alice Ritchie.
En décembre 2015 est lancé le mode restreint sur YouTube, un outil destiné premièrement aux parents afin de filtrer des vidéos inappropriées. Il est précisé que ce filtre n'est pas fiable à 100%. Mais ce qui n'est pas précisé et qui a été découvert 2 ans plus tard en 2017, c'est que ce mode filtre tout ou une grande partie du contenu LGBTQI+. Le site s'est excusé et a précisé qu'il s'agissait d'une erreur. Un an plus tard, en 2018, Chase Ross, un créateur transgenre, parle de son expérience. Une grande majorité de ses vidéos se voit appliquer une limite d'âge, ce qui empêche la monétisation, et d'autres sont démonétisées. Ses vidéos sont signalées de manière abusive par des groupes anti-LGBTQI+, mais lorsqu'il fait appel, la décision est confirmée par YouTube. La présence du terme « trans » dans le nom de fichier de la vidéo amène une démonétisation automatique lors de la mise en ligne.
Où je t'ai mis des passages là sur la question YouTube et notamment des biais racistes ou transphobes de YouTube.
Ouais.
Et du coup, j'avais toute cette question sur effectivement l'importance de la visibilité offerte par ces interfaces, mais le fait qu'il y avait des biais discriminants. Et donc, je voulais savoir si... justement, comment toi tu négocies avec cette contradiction que représentent donc les plateformes YouTube comme Instagram comme un espace de prise de parole et en même temps comme un espace de visibilité pour des paroles qui sont plutôt minorisées habituellement.
Moi en fait pour répondre le plus simplement, on va dire que je considère que depuis 2016, moi je suis sorti de Les Beaux-Arts en 2016 et je me suis retrouvé c'était le moment où Instagram devenait l'outil de réseau le plus indispensable pour les jeunes artistes et l'outil de contact et du coup quand je suis sorti, tous mes contacts, toutes mes amitiés et beaucoup de mes amitiés et beaucoup de mes des liens de complicité que j'ai pu tisser sont passés ou ont été renforcés par Instagram. Et par le fait que on aime les mêmes choses sur Instagram ou qu'on discute sur Instagram ou qu'on soit au courant des activités des uns et des autres via Instagram. Donc ça veut dire que c'était très très important. Et à ce moment-là, il y a aussi eu un mouvement de politisation du réseau qui s'est fait de manière hyper intense avec plein de comptes militants, de comptes de propositions de vulgarisation qui sont arrivés. Il y a eu tout en fait un écosystème qui s'est créé via Instagram qui m'a vraiment porté. Qui m'a nourri et qui m'a permis de me connecter à des gens qui est vraiment hyper important et qui pose beaucoup de questions du coup et toutes ces questions spirituelles aussi dont on parlait au début. Mais du coup ça fait que malgré tous les problèmes de visibilité liés aux algorithmes d'Instagram, de YouTube, de TikTok et autres, c'était le seul espace qui nous a permis à ce moment-là de créer des bases d'architecture pour se fédérer en fait et tisser des liens de confiance. Et c'est ça qui était très très important parce que on était plein à être isolés dans tous nos coins. Et là, via ce truc, malgré tous les problèmes qu'il a, on a pu tisser ces liens de confiance pour activer des choses hors de l'espace numérique aussi. Du coup, des vraies rencontres, des vraies expos, des vraies conférences, des vraies actions militantes hors de l'espace numérique, mais c'était l'endroit où on se connectait. Et après, pour ce qui est de l'exposition, c'est-à-dire le fait que, est-ce que l'algorithme va nous permettre d'avoir 400 000 vues ? Peut-être pas pour l'instant, parce qu'on joue pas bien les codes, etc. Il y a des comptes sur YouTube qui sont très suivis, et il y a des comptes sur Instagram aussi, qui sont très suivis, mais qui doivent mêler à la fois propositions politiques ou analyses, et aussi vlogging, conseils beauté, développement perso, et du coup toute cette alchimie, il faut aussi la prendre en compte. Et je pense qu'en tant que militant et militante dans l'espace numérique, on peut pas se permettre d'être juste comme les militants des générations précédentes. Sans vouloir faire de critique, il y a plein de formes de militantisme dans les générations précédentes, mais ce qu'on identifie le plus comme militant, c'est souvent le truc des grands discours, des côtés genre des tracts, du démarchage, et aussi une attitude très très pure, entre guillemets, très droite par rapport à ses convictions. Alors que dans l'espace numérique dans lequel on est, par exemple, il y a Crazy Sally qui fait un travail assez, assez fort à la fois de militantisme, mais de vlogging en même temps, qui fait des conseils cheveux tout le temps. Et il faut qu'en tant que militant et militante, on soit capable de s'emparer des codes des plateformes sur lesquelles on est et pas forcément rester que cantonné à la facette militant. C'est beaucoup une question que je me pose et moi je vais essayer d'aller dans cette direction. Je fais de la vulgarisation d'histoire, mais comment je peux aussi sortir de la posture du militant, voilà. Qui est une posture, parce qu'en vrai il y a plein de façons de militer qui sont totalement différentes et les anciens l'ont très bien compris.
Mais d'ailleurs, la place de la musique est hyper importante aussi quand même dans ton travail.
Oui, carrément.
Je ne sais pas si ça peut être un espace qui peut aussi.
J'aime bien faire de la musique. Mais j'ai plein de projets d'albums qui ne seront jamais publiés sans doute, que j'écris tout seul pour moi. Mais par contre, j'aime bien en mettre, enfin dans mes vidéos justement que je revendique plutôt artistiques, j'ai souvent des passages chantés et des liens à la musique et il y a plein de choses. Bon, déjà le lien à la spiritualité. Enfin, souvent j'envisage la musique par ce biais-là. Enfin, dans mes vidéos, en tout cas, c'est des musiques chantées un peu à la manière d'église ou bien du muezzin musulman. Enfin voilà, il y a des références comme ça. Mais après, au-delà de ça, je suis beaucoup touché par la musique, par exemple, de Eden Tinto Collins et Nicolas Worms, qui sont deux jeunes artistes et musiciens, musiciennes. Et en fait, cette idée que dans la musique, en tout cas, par exemple, dans les musiques afro-descendantes, qu'elles soient afro-américaines ou afro-péennes, etc., ou caribéennes, il y a beaucoup de... C'est des bibliothèques, en fait. Il y a plein de citations. C'est-à-dire, les gens se citent entre eux. Et il y a plein de textes qui sont des textes de thérapie. Enfin, un peu comme si il n'y a pas forcément beaucoup de consultations psy, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent c'est de la musique thérapeutique, quoi. Genre, on exprime en fait des choses via cette musique qui permettent de se connecter aux ressentis d'autres personnes. Et en même temps, il y a plein de théories politiques à travers la musique et tout ce jeu de citations tout le temps entre chacun qui recite les morceaux d'une autre personne. Et ça fait vraiment un truc, c'est très universitaire d'une certaine manière. Je sais pas comment dire, mais. Cette musique, et je trouve que Eden Tinto Collins, par exemple, l'a très bien compris et joue beaucoup avec ce phénomène-là, et je sais pas, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup.
Tomber serais-je ou suis-je toujours l'ingénue fille du béton? Ici et là, leur voix résonne dans la nuit. Le brouillard dessine leur visage. Je vis dans le songe et la quête ne jamais s'oublier leur nom. Lorsque le doute s'empare de moi, soudain, elle répond. Avec des signes et des lueurs, drôles de sensations, embrigadés, lésés, mal à l'aise, entraînés pour supporter le poids ostentatoire de ces monades urbaines, gratte-ciel unique échappatoire, la moque mise en scène, mon seul exutoire. Et ben, sous terre, abandonné, le beat crevé. Pour faire tourner la machine au ralenti.
La censure sur Internet, et particulièrement sur les réseaux sociaux, ne se résume pas seulement à ce qui est autorisé ou non, mais passe par de nombreuses dynamiques de pouvoir, telles que quels contenus sont monétisés, quels contenus sont recommandés. Ces phénomènes sont invisibilisés. S'il est possible de voir si une publicité est présente ou non sur une chaîne, cette information n'est pas forcément significative, car la présence ou l'absence de cette publicité dépend de nombreux facteurs, tels que la personne qui consulte la page, son âge, si elle est connectée. Alice Ritchie, Don't Be Evil, la construction et l'évolution des interfaces humain-humaine-machine, sous la direction d'Anne Laforêt, mémoire de DNSEP 2020, atelier de communication graphique, Haute École des Arts du Rhin.
Et je me demandais, toi, t'as eu affaire à des formes de censure de la part de YouTube ou...
Alors non, alors moi le seul phénomène que j'ai eu, c'est que j'avais fait une vidéo, alors c'était laquelle que j'avais faite, c'était sur le djihad et la colonisation, c'est-à-dire comment la question du djihad était traitée à l'époque coloniale, qui a pas beaucoup changé de la manière dont elle est traitée aujourd'hui. On a l'impression que c'est un phénomène nouveau, mais en fait la presse française répète toujours la menace du djihad en permanence depuis les années même 1890.
Ah oui, quand même.
Ouais. Et du coup, moi, j'avais fait une vidéo sur ce sujet et dedans, j'avais mis un hashtag qui était peut-être le hashtag djihad, justement, ou bien le hashtag massacre. Je sais plus ce que j'avais écrit comme hashtag, mais j'avais mis un hashtag un peu violent. Et du coup, ma vidéo n'était pas du tout montrée. Et je comprenais pas pourquoi elle était pas vue et même elle apparaissait sans titre et sans texte d'explication. Enfin, tu sais, on peut mettre une légende, quoi, à la vidéo et ça n'apparaissait pas. Et du coup, je me disais, mais c'est bizarre, il doit y avoir un bug d'Instagram. Et je repostais ma vidéo, je la supprime à chaque fois, je la repostais. Ça faisait toujours la même chose, jusqu'à ce que j'enlève ce hashtag. Et là, ça a fonctionné.
D'accord, ok.
Et je me suis rendu compte qu'elle devait être bloquée d'une manière, mais que Instagram le disait pas direct. Mais c'était quand même visible. Donc c'est le seul truc que j'ai eu. Mais par contre, je sais que chez plein de, il y a plein de youtubeurs et youtubeuses que je suis, notamment sur les questions, par exemple, de Covid. Tu peux pas monétiser une vidéo qui parle du Covid.
D'accord.
Enfin, ça dépend des moments. Il y a des moments où YouTube change ses politiques, mais assez régulièrement, il y a des choses qui arrivent et qui ne permettent plus de monétiser. Et ça, c'est les raisons propres à YouTube ou de voilà. Mais du coup, moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais je sais qu'avec les questions trans, ça arrive assez facilement. Eux, ils peuvent dire que c'est parce qu'ils veulent pas que des gens fassent du buzz sur ça et qu'en fait, ils puissent dire n'importe quoi tout en ayant de l'argent. Et du coup, ils le démonétisent. Comme ça, c'est un problème réglé. Mais d'un côté, du coup, si t'as un compte de vulgarisation sur cette question, ben, tu te fais avoir et tu peux pas en parler. Enfin, c'est très, très étrange. Mais eux, les raisons qu'ils vont évoquer vont jamais être de la censure vraiment négative.
Tu travailles énormément en collaboration. Anisoka, On Creuse, Décoloniser les hasards, Extinction Rébellion, la coordination autonome noire. Et t'as aussi là beaucoup parlé de communauté finalement, ta manière de parler ou de t'adresser. Je me disais, est-ce que c'est pas une manière aussi d'échapper à une forme d'individualisme qui est assez caractéristique de l'art en fait. Enfin, dès les beaux-arts, on te demande de passer ton diplôme seul et puis après de développer un travail... Enfin voilà. Ouais. Est-ce que là tout à coup, notamment le fait de travailler en réseau et en collectif, enfin voilà, comment c'est apparu et qu'est-ce que ça porte quoi?
Ben en fait, mon travail en collectif, il est apparu avec Anisoka.
Ouais.
Et avec c'était surtout avec Hugo Baranger au départ que je travaillais vraiment en collectif. Et on avait aussi un autre format avant qui s'appelait Super CD, qui était plus une sorte de label musical. Du coup, j'avais déjà un lien avec la musique, Mais en fait, c'était vraiment l'idée justement de voir, en sortant d'école, de pas être dans une logique de compétitivité entre jeunes artistes, mais d'entraide plutôt, et de voir est-ce que ce que l'un fait peut aider le CV de l'autre ou les potentialités de l'autre. Est-ce que on peut s'assembler et plutôt être dans le travail en équipe, un peu sur le format des labels de musique justement, genre quand il y a un label de musique, c'est un label et chaque musicien a son activité propre, mais tous apportent de la force au label et donc aux membres du label, quoi. Et donc cette idée-là un peu de comment est-ce qu'on fait équipe, on prend soin les uns et les unes des autres, etc. Du coup, ça a toujours été important pour moi. Et en même temps, le travail en collectif plus large, comme dans Extinction Rebellion ou dans Décoloniser les arts, c'est l'idée aussi de la politique, ça m'intéresse toujours. Et comment est-ce qu'on s'organise collectivement? Et qu'est-ce qui apparaît comme problème dès qu'on essaie de s'organiser? Donc les enjeux de pouvoir, les enjeux de réseau, les enjeux de motivation, les enjeux financiers. Donc tous ces trucs-là, comment en fait on les... qu'est-ce qu'on en fait en fait? Parce que c'est bien beau de se dire on va se lever tous ensemble et aller, je sais pas, mettre un drap sur une statue. Mais concrètement, comment ça se passe? Qui prend les risques? Est-ce qu'on a une team juridique? Tous ces trucs-là, c'est des choses qui m'intéressent d'organisation collective. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que bah, il y a plein de choses compliquées dans tous les cas en s'organisant en groupe, mais surtout que moi, j'avais été effectivement formaté par mon parcours hein, en école d'art à tout faire seul et à assumer aussi beaucoup mes choix seul. Mmh. Et après, ça fait peut-être partie de ma personnalité aussi, parce qu'il y a plein de gens en école d'art qui sont dans un travail encore plus collectif que ce que je fais. Mais moi, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses où du coup, ben, j'ai, avec Histoire Crépue, par exemple, je me suis plutôt remis tout seul à m'adresser à une communauté. Mais c'est pas encore faire avec ma communauté.
Et en même temps, et... tu disais qu'il y a aussi beaucoup de commentaires qui te permettent aussi peut-être de, ensuite d'aborder c'est d'autres ça. Sujets, etc. Quoi.
C'est ça. Oui, il y a beaucoup de choses. En fait, je reçois, c'est un échange, on va dire, où je reçois beaucoup de ma communauté et je donne beaucoup. Mais au final, je suis quand même seul avec mes épaules face à beaucoup de personnes. Et du coup, ça crée plein de problèmes bah, de stress, de, enfin, juste de suractivité militante qui est un problème assez récurrent pour les gens qui ont des comptes militants qui ont beaucoup d'audience et du coup qui posent plein de problèmes et qui me poussent à me poser la question comment j'arrive à organiser ça de manière plus collective et à répartir les poids et les charges liées à cette activité et que je les répartis avec d'autres personnes en leur faisant confiance, en arrivant à déléguer, etc. Et ça, c'est vrai que moi, dans mon parcours artistique, j'ai pas trop, je me suis pas mis dans cette dynamique-là. Et donc là, je l'apprends au fur et à mesure. Je travaille avec Réa de Triangle Production, qui m'aide du coup à la production de nouvelles vidéos d'Histoire Crépue. Et j'apprends du coup à déléguer, à me dire bon bah, on va construire des formats ensemble. Je vais pas tout assumer parce qu'il y a mon projet justement Sunboy qui fait que j'ai tendance à vouloir que ça s'intègre bien dans la trajectoire de tout ce que j'ai fait. Mais en fait, il y a des choses qui doivent m'échapper maintenant. Et donc, c'est aussi ce parcours-là que je suis en train d'avoir, là, avec Histoire Crépue, bah, apprendre à continuer à déployer ça, mais de manière plus collective.
Peut-être une dernière question, parce que c'est une question que je me pose, moi, tout le temps, en tant qu'enseignante et femme cis hétéro, mais je me demande comment pas reproduire les formes de domination au sein du travail artistique. Est-ce que le champ militant t'a permis de trouver des formes de réponse à ces questions?
Ouais. En tout cas, moi, j'essaye de me former beaucoup. Et je trouve que ce qui est riche dans les cercles militants, c'est qu'on est beaucoup entouré de gens qui veulent se poser des questions et évoluer sur certains points et se remettre en question. Et donc, moi, ça me nourrit énormément et ça me permet de trouver certaines méthodes pour éviter certains rapports de domination, ou en tout cas pour les prévenir le plus possible, ou bien parfois pour savoir y réagir. Mais c'est un long travail et j'ai pas encore de recette miracle. Mais par exemple, si je donne juste un exemple de domination assez, assez visible, c'est que moi, sur les questions d'histoire coloniale, j'arrive à mettre mon visage assez facilement en scène et à m'afficher sur les réseaux. Aussi parce que en tant que mec cis, et après avec toute ma pratique artistique, j'ai eu l'habitude de toute façon de me mettre en scène, mais le fait d'être un mec cis, ça aide, enfin, dans cet espace-là qu'est Instagram, ça aide à avoir un discours de type historique. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me mettre en situation, de me rendre sexy ou quoi pour attirer l'audience. Enfin, je peux avoir un discours aussi simple que l'histoire et qu'on puisse commenter seulement mon travail, enfin ce que je propose, alors que souvent les personnes plutôt genrées femmes vont être confrontées à plein de commentaires critiques qui dépassent ce qu'elles ont proposé comme production et ce qui n'encourage pas pour beaucoup d'entre elles à faire des choses dans lesquelles elles s'affichent. Et du coup, bah, ça va être beaucoup de formats textes qui sont très très pertinents et très intéressants, mais qui ne permettent pas forcément d'être ensuite invité en plateau sur par Brut ou par je ne sais qui, parce qu'en fait aussi l'économie médiatique a besoin de visages, et du coup ça fait que finalement bah ça va être moi par exemple qui suis un ex-cis qui va avoir un temps de parole sur je sais pas sur une télé ou autre ou dans un média parce qu'on m'a identifié visuellement, alors que d'autres qui font du contenu qui est que texte ben on va peut-être copier et coller leur ou bien afficher leurs images, mais on va pas forcément les interviewer elles. Enfin, et toute cette question-là, ensuite, de la prise d'espace médiatique, elle est compliquée, elle est rendue compliquée par ces mécanismes qui sont pas réglés au niveau du réseau même, quoi. Mais après, je dis ça, et il y a quand même beaucoup de, par exemple, dans les cercles afro-descendants en France, les principales figures, il y a des gens comme, justement, Crazy Sally, Grandeur Noire, ou, enfin, Nadjelika, enfin, il y a des grandes influenceuses qui sont plutôt des femmes. Mais par rapport au nombre de contenus qui sont faits, on va dire proportionnellement, les hommes sont plus vite exposés que les femmes, c'est ça que je veux dire. Mais en réalité, enfin, il y a quand même majoritairement des femmes cis, pour le coup, qui sont les plus visibles, qui ont le plus d'abonnés et qui ont le plus de poids médiatique.
Bon, bah, merci beaucoup, c'est clair tout ça.
Merci beaucoup pour tes questions. C'était très intéressant aussi. Je crois qu'il y a des trucs que j'avais pas dit avant, donc ça va être cool.
Assoiffé d'armes et d'harmonie, l'âme libérée de son corps, plongeant ses remords dans une eau numérique. Incandescente, trinque à notre folie, drainée par le goudron, résiste et rétorque à la mélancolie et déverse-toi dans le stream et transforme les lois. What serais-je, où suis-je, toujours aussi brave qu'un garçon? Ici et là, le bruit résonne et parasite ma mise en abîme dans le sillage. Mes caracoles sur le fil, abonnés au club des caméléons, butés lorsque j'en fais des tonnes. Soudain le béton armé me rappelle ses formes et sœurs.